Champagnac, chronique du crime et de l'innocence, sourd-muet assassin. Le nommé Étienne Petit, pauvre et honnête cultivateur auvergnat, domicilié dans le département du Cantal, s'était endormi le 23 juin 1827 dans un champ où, après le labour du matin, il avait mené paître deux vaches. Une de ses filles, qui va le chercher, l'aperçut couché contre un mur à l'abri du vent du nord. Parvenue auprès de lui, elle l'appela vainement. Le malheureux n'existait plus. La jeune fille éperdue court un mot, demandant du secours. On vint à ses cris. Une blessure profonde au-dessus de la clavicule droite apprit bientôt que la mort de Petit était le résultat d'un crime. Et tous les soupçons se réunirent aussitôt sur Pierre Sauron, sourd-muet de naissance, qui depuis quelques années avait accompagné sa famille et s'était fixé avec elle au village de Lascouen. Pierre Sauron s'était épris d'une passion violente pour l'une des filles de Petit. Celle-ci répondait à son amour. Elle était devenue enceinte et, pour faire cesser le scandale de leur relation, le père avait contraint sa fille à s'éloigner du pays. Dès lors, Pierre Sauron conçut contre Étienne Petit une inimitié profonde. Il nourrissait dans son cœur des sentiments de vengeance, et ces sentiments, il les manifestait très fréquemment par des menaces atroces qui s'exprimaient tantôt par une pantomime d'une énergie effrayante, tantôt par les actions les plus odieuses. Irrité de l'excellente réputation dont jouissait Petit, et voulant lui susciter des ennemis, il prenait dans des meules de paille appartenant à ses voisins une certaine quantité de bottes qu'il portait dans la grange de celui à qui il avait loué une aile implacable, et il avait soin de laisser après lui une longue traînée afin de faire passer Petit pour le voleur et de le perdre plus sûrement dans l'opinion publique. Un jour, s'étant affubé d'une espèce de couronne de laquelle pendaient quelques touffes de crin, dans l'intention d'imiter la chevelure d'un aliéné qui était originaire du même lieu, il se rendit pendant l'obscurité devant la maison de Petit, tout nu et armé d'un gros bâton, et faisant beaucoup de bruit pour attirer son ennemi et l'assaillir. Cette tentative étant restée sans succès, Sauron imagina d'ouvrir la porte mal fermée de l'étable où se trouvaient quelques bêtes à laine appartenant à Petit. Bien convaincu que ce dernier accourait pour les faire entrer au bercail, cette fois le stratagème réussit. Petit eut le malheur de sortir. Sauron se précipita sur lui et lui asséna un violent coup de bâton. Il allait redoubler lorsque Petit, esquivant le coup, essaya de le saisir aux cheveux. Mais la chevelure postiche dont l'agresseur s'était affublé lui demeura entre les mains. Les gens de la maison accoururent au cri de Petit et Sauron prit la fuite. Ce fait donna lieu contre le sourd-muet à une plainte en police correctionnelle. Un mandat d'arrêt fut lancé par le juge d'instruction. La gendarmerie fit longtemps des perquisitions inutiles. Enfin, une audience eut lieu par défaut, et le prévenu fut absous, faute de preuves suffisantes. Quelques mois s'étaient à peine écoulés depuis ce funeste acquittement, lorsque le malheureux Petit fut assassiné. Sauron était resté chez lui, il prit la fuite à la vue des gendarmes, il fut poursuivi et arrêté. Ces menaces antérieures contre Petit, les présomptions qui déjà s'étaient élevées contre lui, sa haine bien connue pour la victime, avaient incontinemment appelé tous les soupçons sur Sauron. Amené sur le lieu où gisait encore le cadavre de Petit, il leva les yeux au ciel, fit quelques signes de pitié, et bientôt demeura immobile. À l'autopsie du cadavre, les hommes de l'art constatèrent que Petit avait été atteint d'un coup d'arme à feu, tiré presque à bout portant, et qui avait été chargé avec des morceaux d'une sonnette brisée. Ils trouvèrent une assez grande quantité de cette espèce de mitraille dans les poumons et dans le cœur, et déclarèrent que la mort avait été instantanée, que la victime avait été atteinte dans l'attitude d'un homme assis, appuyé contre le mur de son pacage, probablement endormi, et que le coup avait été tiré de haut en bas. Sauron était un adroit chasseur. Il avait un fusil depuis quelque temps. Cependant, ses voisins ne lui en avaient point vu. Quand il fut arrêté, on lui fit demander, par les personnes les plus habituées à converser avec lui, ce qu'il avait fait de son fusil. Il donna à comprendre qu'il n'en avait point, et que celui dont il se servait autrefois n'était pas à lui, qu'il l'avait rendu à la personne qui le lui avait prêté. Et tout à coup, après bien des recherches, le fusil fut découvert chez Sauron, industrieusement caché entre deux poutres de l'écurie. On s'était servi de cette arme tout récemment. Le bassinet était encore humide. Le canon exhalait une odeur de poudre. Sauron, interrogé sur ces diverses circonstances, ne répondit que par des signes de dénégation. On fouilla les poches du gilet qu'il avait sur lui et l'on trouva des morceaux de sonnette absolument semblables à ceux que les médecins avaient découverts dans la blessure de Petit. On les rapprocha les uns des autres, ils s'adaptaient parfaitement. On reconnut que tous avaient fait partie du même tout. Alors, Sauron rougit, se déconcerta, et l'abattement le plus complet succéda à la froide indifférence qu'il avait manifestée jusqu'à ce moment. Par suite des faits que nous venons d'exposer, Sauron fut traduit devant la cour d'assises du Cantal, séant à Saint-Flour le 17 août 1827. Des témoins furent entendus. Aucun n'avait vu commettre le crime. Deux ou trois seulement avaient entendu l'explosion. Tous déposaient de la haine de Sauron contre Petit. Des causes de cette haine, de ces menaces, de l'acte de violence qui avait donné lieu au premier procès, des vols de paille simulés. Plusieurs racontaient que Petit avait fait un funeste pressentiment de ce qui devait lui arriver. « Le muet me tuera quelque jour », avait-il dit souvent. « Faut que je vende la peau de bien que j'ai et que j'aille rejoindre mon fils à Paris. » Il avait ajourné ce voyage à l'automne. Et dans la crainte de l'événement, il s'attachait chaque jour à mettre sa conscience en paix. Il se confessait souvent et s'approchait fréquemment de la Sainte Table. Il voulait toujours être prêt à paraître devant Dieu. Tels sont les principaux détails contenus dans l'acte d'accusation et qui ont été entièrement confirmés par les débats. On avait désigné pour servir d'interprète à l'accusé M. Toussaint Sicard, élève de prédilection de l'illustre abbé Sicard, héritier de son nom et de ses connaissances. Cet homme habile accourut à Mont-Salvi, petite ville du Cantal où sa bienfaisance entretient une école déjà renommée, et il amena avec lui six jeunes sourds-muets, plus ou moins avancés dans leur éducation, afin de leur donner une grande leçon en les rendant témoins du terrible exemple qui se préparait. Arrivé plusieurs jours avant le jour de l'audience, M. Sicard essaya de se mettre en rapport avec Pierre Sauron. Toutefois, avant le tirage au sort des jurés, il déclara qu'il ne saurait ni transmettre ses idées à l'accusé, ni traduire les siennes. Il n'avait point eu assez de temps pour parvenir à lui faire connaître le langage des signes, que l'intelligence de Sauron lui avait paru des plus bornées. Il ajouta qu'il serait grandement à désirer que la cause fût remise à une prochaine session pour que l'on pût donner à l'accusé quelques notions élémentaires. Enfin, il déclara que dans une affaire aussi importante, aussi grave, il m'était absolument impossible d'accepter sans cette précaution préalable les fonctions d'interprète qui lui étaient déférées et de prêter en cette qualité le serment requis par la loi. Sur cette réponse de M. Sicard, on manda pour le remplacer un sourd-muet, déjà instruit, sachant écrire et lire, et qui depuis plusieurs années s'était fixé à Saint-Flour. Celui-ci accepta les fonctions qu'on lui proposait et prêta serment. La physionomie de Pierre Sauron était calme et presque stupide. Il ne manifesta aucune émotion quand on déposa sur le bureau les pièces de conviction, le fusil et les morceaux de sonnette. L'avocat du prévenu, se fondant sur les mêmes motifs que M. Sicard, et déclarant n'avoir aucune confiance dans l'interprète choisi, sollicita vivement la remise de la cause en alléguant que la défense était impossible. Mais la Cour, sur les conclusions du ministère public, décida qu'il serait passé outre au débat. Les dépositions des témoins confirmèrent les faits déjà connus. Après la lecture du procès-verbal dressé sur les lieux, Pierre Sauron subit une espèce d'interrogatoire, mais les expressions manquent pour peindre la multiplicité de tableaux que retraçait cette intéressante pantomime. Le ministère public, après avoir développé les charges de l'accusation, demanda avec force la condamnation du prévenu. Il n'eut pas de peine à montrer que la préméditation était incontestable. « Ce grand crime a été commis !» s'écria le magistrat chargé des intérêts de la société. « Un grand exemple est nécessaire. Toute la contrée est en émoi. Il n'est pas un témoin qui ne tremble pour son existence si l'accusé en l'accès. Et sa condamnation n'admet aucun tempérament. » La défense de Sauron, présentée avec talent par Maître de Sauret, produisit de fréquentes et vives émotions dans l'auditoire. Elle n'obtint pourtant qu'un demi-succès. Reconnu coupable, mais sans préméditation, l'accusé fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Ce malheureux n'avait pas compris l'arrêt qu'on venait de prononcer. Plus tard, dans la prison, M. Sicard, qui avait consenti à aider de tout son pouvoir l'interprète assermenté, parvint à lui expliquer sa sentence de condamnation. Alors le désespoir de Sauron éclata violemment et il fit entendre qu'il aurait préféré la mort.